chapitre 3, versets 13 à 24, page 614. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le maître de l'univers ? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent, et ils mettent Dieu à l'épreuve, et ils en réchappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme qui a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En effet, voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et il ne leur laissera ni rameau, ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb, pour tout Israël, des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de description. Jusqu'ici la parole de Dieu.
Merci à Soa. Donc, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes donc, à cette page 614. Alors, ce matin, nous allons terminer nos prédications dans ce petit livre de Malachie. Je pense que vous serez d'accord avec moi en disant que nous avons été les témoins du franc-parler de Dieu dans ce livre. Dieu n'a pas mâché ses mots. Nous avons vu combien Dieu désire que son peuple l'honore. Alors, dans les premiers versets de ce livre, au chapitre 1, Dieu avait interpellé son peuple en leur rappelant l'immensité de son amour pour eux, pour lui. Dieu a choisi ce peuple. C'était l'initiative de Dieu. Ce n'était pas son peuple qui avait choisi Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a fait de ce peuple le sien. Il les a aimés. Il les a protégés. Il leur avait dit qu'il allait les protéger pour toujours. Et c'est fort de la connaissance de lui, de son amour si profond, que Dieu les appelait à revenir vers lui et à vivre fidèlement pour lui. Et ce passage, celui de ce matin, forme bien la conclusion de ce livre. Dieu veut qu'on soit au clair sur comment vivre pour lui, comment vivre la vie chrétienne. Il veut former, sculpter notre perspective afin que nous marchions pour lui, avec lui, en lui, afin que nos cœurs trouvent leur repos en lui. Mais pour nous permettre de faire ça, Dieu doit débusquer un mensonge, une tentation mensongère qui nous tente tous. Et Dieu veut poser quelques fondements. Alors ce matin, nous allons commencer par ce doute qui nous tente tous. C'est le premier point. Avant de parler de pourquoi ce doute n'a pas lieu d'être, et finalement dans un dernier temps, nous allons entendre l'appel solennel de Dieu à vivre l'adoration fidèle à vivre l'espérance fidèle. On va commencer avec les premiers versets, versets 13 à 15. Et dans ces versets, nous sommes les témoins de ce dernier dialogue entre Dieu et son peuple. On a vu plusieurs dialogues dans ce livre avec des accusations de la part du peuple et des réponses de la part de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que le peuple dit au sujet de Dieu cette fois-ci? Il dit, est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu? Ou autrement dit, à quoi ça sert de servir l'Éternel? Et Dieu met son doigt sur le problème, sur le doute fondamental qui conduit le peuple à douter de lui. Le doute que nous voyons dans ce passage, nous l'avons déjà vu au chapitre 2, verset 17. Là, nous avons lu « Où est le Dieu de la justice ?» Dieu est-il vraiment juste? Car comme nous le voyons ici au verset 15, le peuple commence à déclarer que non, que Dieu ne serait pas juste. Les arrogants, les méchants seraient bénis, car ils prospèrent. Ces méchants vivaient leur vie sans égard pour Dieu, et ils semblent très bien tirer leur épingle du jeu. Et sans doute vous connaissez des personnes comme elles aussi. Et les Israélites, comme nous le voyons au verset 14, ont une vision bien déprimante de leur vie avec Dieu. Pour eux, il s'agit d'une vie de deuil. Pour eux, les athées s'éclatent, mais eux, ils doivent vivre de manière bien sage. Ils doivent respecter la loi de Dieu. Alors peut-être ce doute effleure votre esprit de temps en temps. Vous êtes croyant, mais ce doute gangrène votre enthousiasme pour Dieu. Vous avez bien commencé la vie chrétienne. Vous avez fait des choix courageux. Vous avez choisi d'être fidèle à Dieu et ça vous a coûté peut-être cher de temps en temps. Et avec le temps, il y a une sorte d'amertume, de déception qui s'est installée dans votre cœur. Est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu? Est-ce que ça vaut la peine de chercher d'abord le royaume de Dieu dans votre choix d'emploi, de carrière, dans l'usage de votre temps, de votre argent, dans votre engagement à l'église, dans votre engagement dans le mariage ou dans la persévérance dans le célibat? Vos amis non-croyants semblent contents. Ils avancent peut-être sur le plan professionnel, ils achètent des maisons plus grandes, prennent des vacances luxueuses. Ils cherchent d'abord leur propre bonheur dans leurs relations. Ils ne se soucient guère de si leur comportement sexuel ou marital plaît à Dieu ou pas. Ils semblent s'éclater. Et la tentation de laisser s'installer dans nos cœurs ce doute est bien réelle. C'est bien réel pour nous tous. Est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu, de lui rester fidèle? Quel gain! Quel avantage! Parce que Dieu ne semble pas intervenir. Il ne semble pas punir ceux qui méprisent son nom. Ils peuvent continuer sans crainte, sans peur, comme si de rien n'était. Et ce doute nous pousse peut-être à mettre de l'eau dans notre vin. Oui, on veut servir Dieu, mais pas trop quand même. On a peut-être une forme de christianisme, un formalisme, mais sans joie, sans réel désir d'être obéissant à Dieu en toutes choses. Alors peut-être ce matin vous êtes là en tant que visiteur. Vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ. Vous êtes en train de réfléchir à quoi cet engagement ressemblerait. Alors déjà, merci d'être là. Nous sommes contents que vous soyez là. Car la foi n'est pas quelque chose juste de mystique qui nous zappe. Elle vient en écoutant la parole, en écoutant Dieu et en réfléchissant. Et peut-être que vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu? Est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus? Quel avantage! Vous voyez bien que les chrétiens ont leur lot de souffrances dans la vie. Des cancers, des maladies, des tragédies. Et en plus, parfois le mépris de la société. Qu'est-ce qui fait qu'ils persévèrent? Pourquoi ils ont cette joie malgré tout? Alors, la suite de notre passage nous montre pourquoi ça vaut bien la peine de servir Dieu. Pourquoi ce doute n'a pas lieu d'être? Pourquoi le peuple de Dieu peut espérer en lui? Nous sommes à ce deuxième point, donc le doute qui n'a pas lieu d'être, les versets 16 à 21. À partir du verset 16, nous lisons la réponse de Dieu. Et cette fois, la réponse est un peu différente des autres réponses qu'on a vues dans les chapitres précédents. Parce que Dieu ne répond pas directement à cette accusation. Malachie se met à parler de ceux qui n'accusent pas Dieu. Malachie parle de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que vous voyez ça au verset 16? Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Ce n'est pas à l'homme de mettre Dieu devant un juge. Nous ne pouvons pas faire des accusations et exiger des réponses, des excuses, des justificatifs de la part de Dieu. Ce n'est pas notre place. Si nous pensons au récit de la Genèse, nous voyons combien c'est déplacé de nous ériger au-dessus de Dieu, au-dessus de sa parole. Mais on voit bien ici que Dieu est plein de miséricorde parce qu'il parle, parce qu'il donne quand même des réponses. Et ce qu'il va dire à ceux qui le craignent nous montre bien que ça vaut la peine de le servir. Dieu leur montre que ceux qui doutent de sa justice ont bien tort. Il leur montre que ceux qui le craignent font le bon choix. À la fin du verset 16, Dieu nous parle d'un livre de souvenirs qui est écrit devant lui pour ceux qui ne méprisent pas son nom, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ce livre est un acte solennel de la part de Dieu. Dieu s'engage solennellement devant des témoins à se souvenir de ceux qui le craignent. C'est écrit. Et Dieu ne va pas revenir là-dessus. Nous voyons la présence de ce livre tout au long de la Bible. Au début, dans l'Exode, et aussi dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible. Ce n'est pas que Dieu soit oublieux, mais ce livre symbolise sa mémoire, son engagement à ne jamais oublier ceux qui lui appartiennent. Ça vaut la peine de servir Dieu, car Dieu ne nous oubliera jamais. D'ailleurs, ce livre est décrit comme le livre de vie, car il contient les noms de tous ceux à qui Dieu va accorder la vie éternelle, la vie en lui. Et c'est ce que nous voyons au verset 17. Dieu dit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Dieu fait des promesses sublimes, n'est-ce pas? Ça me rappelle les béatitudes de Jésus dans son sermon sur la montagne. Quand Jésus parle de la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou de lointain, mais quelque chose de bien relationnel. Centré sur la vie avec Dieu dans la présence de notre bon Père Céleste, ce Père qui nous aime. Alors c'est un peu caché dans le verset 17, c'est dans le mot « appartenir », mais le mot qui est bien là, c'est le mot « propriété personnelle ». Ils feront de ceux qui le craignent sa propriété personnelle, sa possession. Personnel. C'est un terme qui parle de la rédemption. C'est le langage du salut. Dieu rachète à très grand prix son peuple pour qu'il soit à lui, pour qu'il soit son peuple, le peuple qu'il aime, le peuple qui est l'objet de sa compassion. Est-ce que vous voyez combien les promesses de Dieu sont grandes et merveilleuses? Dieu veut que son peuple sache que ça vaut bien la peine de le servir. Car ceux qui le servent sont à lui, et lui, il sera à eux. Ça vaut la peine de le servir aujourd'hui, car Dieu prépare un jour quand la différence entre le juste et le méchant sera claire aux yeux de tous. Sa victoire sur le mal sera claire pour nous tous. On va revenir sur ce thème du jugement dans quelques instants. Mais pour l'instant, Dieu veut que nous apprécions que même si le jour présent n'est pas facile, et que même si aujourd'hui le méchant peut sembler prospérer, la vraie richesse soit en une relation authentique avec le Père éternel qui nous aime. Ceux qui se plaignent au verset 14 et qui disent que la vie de fidélité est comme le deuil se trompent sur toutes les lignes. Quel privilège d'être au Seigneur aujourd'hui, dans la vie comme dans la mort. Quelle joie de se savoir aimé, pardonné, membre de son peuple, sa propriété personnelle. Mais le socle de notre confiance devant Dieu n'est pas notre service, notre performance. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Nous lisons ici que Dieu aura compassion de son peuple comme d'un fils qui le sert. Le chrétien est bien appelé à servir Dieu comme un fils sert son père. C'est notre joie de servir notre bon Père céleste. Mais notre joie et notre confiance ne viennent pas de notre service, mais du service de son Fils, Jésus-Christ. Le chrétien est celui qui reconnaît que de lui-même, tout comme les Israélites, avec toute leur lassitude, il reconnaît qu'il n'a jamais été capable d'aimer son Père, d'honorer le nom de son Père comme il fallait. Mais il reconnaît qu'un autre l'a fait à sa place, à savoir Jésus-Christ, le Fils fidèle par excellence. Le chrétien a été uni à Jésus par la foi. Et dans cette union, Jésus a pris sur lui ses fautes, son infidélité. Et il lui a donné en échange sa fidélité, sa vie bonne et juste. Et Jésus qui est mort sur la croix pour subir la juste colère de Dieu à l'égard des fautes de son peuple n'est pas resté mort dans son tombeau. Il y a eu un jour avant le jour dont Malachie parle, quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'était un jour quand nous avons vu la justice de Dieu, la différence entre les justes et les méchants. Jésus a été déclaré juste, innocent, fidèle. La mort n'a pas eu le dernier mot sur lui. Et pour ceux qui reconnaissent humblement qu'ils sont bien pécheurs et qui s'accrochent à Jésus qui est mort et ressuscité, ils seront ressuscités avec lui en ce jour dont Malachie parle. Jésus est notre confiance. En lui, nous sommes à Dieu, corps et âme, tant dans la vie que dans la mort. En lui, nous connaissons la compassion extraordinaire de notre bon Père céleste. Et le verset 20 décrit un peu plus les promesses de Dieu. Verset 20, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. » Alors certains ont vu dans ce verset une anticipation de Jésus-Christ. Et je pense que c'est bien juste, parce que Jésus est notre soleil de justice qui nous guérit. Quand Dieu voit sa justice, et quand il voit tous ceux qui se fient à Jésus, collés à Jésus, il les déclare justes, pleinement acceptables à ses yeux, purs, aptes à être dans sa présence, qualifié pour être dans sa présence. Cette présence qui est bien vivifiante, guérissante. Nous avons beaucoup prié pour la guérison physique de mon beau-père, qui nous a quittés il y a quelques jours. Je pense qu'on peut dire que Dieu a écouté nos prières. Nous savons, puisque mon beau-père a fait confiance, avait mis sa confiance en Jésus-Christ, que nos prières seront bien exaucées. Et qu'un jour, il sortira du tombeau comme un veau sort de l'étable. La mort n'aura pas le dernier mot sur lui. Il sera guéri en ce jour de salut, grâce à Jésus, grâce à son sacrifice, grâce à sa justice, à la croix, Jésus a pris nos fautes, comme il a pris nos maladies, pour que nous puissions, nous qui mettons notre confiance en lui, connaître la vie en lui. On y goûte déjà par le Saint-Esprit, on a cet avant-goût, mais la pleine réalité est à venir. La guérison plénière est à venir et nous avons besoin de garder cette perspective-là. Personne ne dit que la foi est facile. Dieu ne nous promet pas une vie facile. C'est vrai que d'autres semblent prospérer, ceux qui méprisent le nom du Seigneur. Mais la justice sera faite. Ça vaut la peine de servir Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de deuil, mais de joie, marquée par le privilège d'être à lui. Nous avons besoin de trouver notre joie en Christ, en celui qui est, comme l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, j'espère que vous pouvez d'ores et déjà voir que ça vaut la peine de suivre Jésus. Il peut être votre joie, votre consolation, votre espérance, votre vie aujourd'hui, comme dans l'éternité. Et cette proposition de la part de Dieu est d'autant plus urgente vu le message de jugement que nous voyons dans ce passage. Le but de cet enseignement sur le jugement n'est pas d'abord dirigé envers ceux qui ne craignent pas encore le Seigneur, mais envers ceux qui le craignent afin qu'ils sachent que Dieu est bien juste et que ça vaut la peine de le suivre. Ça vaut la peine de le suivre ici-bas, même quand ça nous coûte cher. C'est le verset 19 qui peint un tableau très sombre de ce jugement à venir. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Malachie parle de ce qu'on appelle le jugement dernier. Alors, dans un sens, ce jour a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu à la croix, où Jésus a pris le jugement de son peuple à sa place, avant l'heure. Et c'est ça ce qui nous garantit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Mais pour tous ceux qui ne plient pas le genou devant Jésus, ce jour à venir sera un jour de destruction. Nous pouvons parfois jalouser ceux qui se moquent des lois de Dieu, qui vivent pour eux-mêmes, qui semblent parfois s'éclater sans le moindre souci au monde. Mais nous n'allons pas les jalouser au dernier jour, loin de là. La différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui méprisent son nom sera claire comme de l'eau de roche. Car Dieu jugera avec justice. Alors, nous méritons tous cette justice. Mais dans sa grâce, Dieu a pourvu un salut, et ceux qui s'humilient pour l'accepter le reçoivent gratuitement. Craindre Dieu n'est pas question d'être parfait, d'être religieusement à la hauteur. On n'y arrivera jamais. Craindre Dieu, c'est s'accrocher à son Fils, au Seigneur. Mépriser son nom, c'est faire le contraire. Au cinéma, il y a toujours des films catastrophistes. Dans l'avion, j'ai vu une émission sur la colonisation d'une nouvelle terre dans une nouvelle dimension. L'ancienne terre ayant succombé à la pollution. Et moi, j'aime bien ce genre de film. L'histoire n'est pas cyclique, comme certaines religions orientales le prétendent. Il y a eu un début, comme la science le confirme, et il y aura une fin. Dieu, par Christ, a présidé au début de cette création, au début de cette vie. Et Dieu, par Christ, présidera aussi à la fin, à son jugement. Nous voyons au verset 21 que ceux qui craignent le Seigneur participeront à ce jugement. C'est une image qui peut nous surprendre quelque peu. Le Nouveau Testament nous montre que ceux qui craignent l'Éternel sont ceux qui sont unis à Jésus par la foi. Je pars du principe que nous participons à ce jugement parce que nous sommes en Jésus, celui à qui Dieu a confié tout jugement. La justice sera faite. Ça vaut la peine de suivre, de vivre pour le roi aujourd'hui. La deuxième épître de Pierre nous rappelle qu'en attendant, je cite, « Dieu fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Parfois, lorsque nous voyons le mal dans le monde, nous voulons que Dieu intervienne et qu'il en termine avec le mal, qu'il en finisse. C'est Dieu qui nous donne ce désir-là. Il donne aussi ce désir de prier pour ceux qui méprisent le nom de l'Éternel, afin qu'ils plient le genou devant son Fils, afin qu'ils reçoivent cette grâce pendant qu'il y a encore du temps. Alors, les derniers versets de ce livre nous montrent comment vivre en attendant. En attendant ce jour de jugement et de salut. Et on voit dans ces versets que Malachie, ou Dieu par Malachie, veut qu'on ait une perspective juste. Jetez un coup d'œil sur les versets 22 à 24. Nous avons ici l'application de tout le livre de Malachie. Qu'est-ce que Dieu désire ? L'adoration fidèle. Il veut que chacun de nous vive de manière sincère pour lui. Alors à quoi cette adoration fidèle ressemblera ? Nous voyons deux choses dans ces dernières lignes. Premièrement, l'obéissance fidèle et deuxièmement, l'espérance fidèle. Malachie a écrit ce livre 450 ans avant Jésus-Christ. Il a écrit au peuple d'Israël de retour de l'exil. Il a écrit sous l'Ancienne Alliance, pendant que les termes de l'Ancienne Alliance étaient encore en vigueur. Cette obéissance fidèle est l'obéissance à la loi de Moïse, cette loi que Dieu avait donnée par le biais de Moïse dans le désert au peuple d'Israël. Souvenez-vous de cette loi, de la loi. Alors, en tant que chrétiens, nous ne sommes plus sous cette loi-là. Elle ne régit plus nos vies, mais elle nous dirige vers Jésus. Et Jésus est notre loi. Le Nouveau Testament parle de la loi du Christ. Jésus n'a rien enlevé de cette loi, mais il l'a accompli parfaitement. Et en suivant Jésus, en l'aimant de tout notre cœur, nous aussi nous accomplissons cette loi. Dieu, par Malachie, nous appelle à vivre pleinement pour Jésus. Il ne veut pas de lassitude, il ne veut pas de laisser aller, il ne veut pas que nous l'adorions de manière tiède. Il veut que nous lui soyons fidèles et que cette fidélité dépasse le formalisme, qu'elle se voit dans nos engagements. Malachie, dans ce livre, a parlé de nos mariages, de notre argent, du sacrifice qui est notre vie chrétienne dans tous ses aspects. Est-ce que nous allons entendre l'appel de Malachie ? Est-ce que nous voyons que ça vaut la peine de suivre Jésus ? Car un jour vient quand nous verrons la différence entre ceux qui suivent Jésus et ceux qui ne le suivent pas. Et l'espérance doit remplir nos cœurs aussi. Malachie parle ici d'Élie, le prophète. Le Nouveau Testament fait le rapprochement entre Jean-Baptiste, qui a préparé la venue de Jésus, et Élie. Tout ça, c'est déjà passé, mais notre perspective en tant que chrétien n'est pas fondamentalement différente. Nous attendons le retour de Jésus. Nos vies doivent être animées par cette même espérance. Nous attendons le jour de sa venue avec impatience. Nous fixons nos yeux non pas sur nous-mêmes, notre capacité à tout changer, notre capacité à changer le monde ou à changer l'Église. Notre espérance porte sur Jésus, sur sa venue. Si notre espérance est bien vivante, nous persévérerons, même quand c'est dur, même quand d'autres semblent prospérer sans lui. C'est notre privilège de le connaître. C'est notre joie d'espérer en lui. C'est notre désir de vivre pour lui, de vivre cette adoration fidèle, cette espérance fidèle. Malachi, dans son livre, Dieu, dans ce livre, nous invite à revenir à lui. Est-ce votre désir? Que vous soyez un croyant ou pas, j'espère que ce petit livre de Malachi a touché votre cœur et vous a donné le désir de revenir à Dieu, à venir à Dieu. Dieu nous appelle tous à venir à lui. Et vous savez, ses bras sont grands ouverts. Peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous venez à l'église de temps en temps. Peut-être que vous avez grandi en fréquentant l'église. Mais vous n'avez jamais vraiment demandé pardon à Dieu. Vous n'avez jamais vraiment saisi le sacrifice de Jésus pour vous. Peut-être que vous êtes conscient de combien ces derniers temps vous vous êtes éloigné de Dieu. Malachi nous dit, Dieu nous dit pas Malachi, venez à Dieu. Mettez votre confiance en Jésus. Ça vaut la peine de le suivre. En lui, il y a la vie avec Dieu. Alors je vous invite à la prière. Nous allons prier une prière de confession. Confession de nos péchés, mais aussi de confiance en Jésus-Christ. Prions. Notre bon Père Céleste, ayant étudié ce livre de près, nous sommes conscients de comment et combien nous sommes souvent si loin de toi, de ta perfection. Et Père, nous voulons te dire pardon du fond de nos cœurs. Nous confessons que nos cœurs sont si rebelles. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Pardonne-nous nos fautes. Et notre Père, nous venons pour mettre notre confiance en ton Fils, Jésus-Christ, celui qui est notre justice. Merci de ce qu'il a pris notre péché et qui peut nous donner sa justice. Merci de ce qu'en lui, nous pouvons être justifiés, acquittés, pardonnés, ressuscité pour la vie. Notre Père Jésus est notre seul secours, notre seul refuge. Nous voulons plier le genou devant lui ce matin. Aide-nous par ton esprit à te craindre sincèrement et à vivre pour toi dans tous les aspects de notre vie. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.